crime, Georges Bernanos. Deuxième partie, chapitre 1. L'unique hôtel de Mégère emprunte son nom aux vieux arbres rangés devant sa façade et dont les branches, savamment taillées, s'enchevêtrent pour lui faire la saison venue un bizarre mur de feuillage hissé sur quatre troncs d'un vert pâle et, même au cœur de l'été, comme hivernal. D'ailleurs, l'hôtel des quatre tilleuls n'a guère d'hôtel que le nom. Madame Simplicie et ses deux filles quinquagénaires donnent tous leurs soins au beau magasin d'épicerie qu'elles tinrent jadis des libéralités d'un très vieux monsieur, notaire révoqué, disait-on, et que les anciens du pays se souviennent d'avoir rencontré bien des fois, tordu plus qu'un cep dans sa longue redingote de drap soyeux, les mains crispées à deux cannes jumelles au bec d'ivoire, mais l'œil vif, la bouche nerveuse toujours humide, aussi vermeille que celle d'un petit enfant, et comme flamboyante dans un visage mort. En prenant de l'âge, Madame Simplicie a fini par ressembler à cet octogénaire suspect depuis longtemps sous la terre. Les trois femmes, dont l'avarice est fameuse, occupaient bourgeoisement jadis toute la maison que la sollicitude notariale avait garnie d'un grand nombre d'armoires à glace en palissandre et de meubles d'acajou massifs couverts de reps. L'avarice, ainsi qu'un jeune animal encore inconscient de sa force et de son appétit, grandit d'abord paisiblement, là même où elle était née. La pièce fraîche, obscure, presque tout entière remplie par un coffre-fort au flanc énorme. Puis elle en était sortie un jour, faisant reculer devant elle, pas à pas, ses trois victimes, réduites aujourd'hui à la possession d'une cuisine et de deux cabinets sans fenêtres. Les chambres du premier étage, desservies par un étroit couloir, sont louées à une clientèle de passage, composée surtout de placiers lyonnais. La chambre de monsieur le juge d'instruction est la plus vaste. Elle se trouve malheureusement juste au-dessus du magasin, et les tapis, la tenture, la muraille même sont imprégnés de cette odeur rance et miellée, indéfinissable, écœurante, des épiceries de campagne. De plus, car ces demoiselles débitent aussi du genièvre en cachette, dès 5 heures du matin, la porte bat sans cesse. Puis tombent brusquement de l'église toute proche les rafales de l'Angélus. Quand le dernier coup finit de rouler à travers la vallée son tonnerre, le ciel tremble encore et met longtemps à s'apaiser. Néanmoins, monsieur le juge s'attarde un peu ce matin sous l'édredon d'Andrinople, dont le discret parfum lui rappelle son enfance. Il a plu toute la nuit, et l'eau fume encore au flanc de toutes les pentes, pompée par le soleil. La journée qui commence sera belle. Celle d'hier compte parmi les plus lugubres de sa vie. La mauvaise volonté du procureur complique à plaisir les choses les plus simples, et l'enquête à peine commencée ressemble à un feu qui va s'éteindre. Elle s'étouffe, comme disent les policiers dans leur jargon. Sans doute le moindre petit fait heureux lui donnerait de l'air, on la verrait flamber de nouveau. Mais rien. Il ne se passe rien. Le village lui-même, un moment tiré de sa torpeur, se rendort. Pour tous, le crime a été commis par un vagabond, un étranger qui a joué sa chance, 1 contre 10, et a gagné par miracle du premier coup. Personne ne se sent sous le coup d'une inculpation possible, l'affaire semble déjà classée. Si seulement. Quelques heures ont suffi pour mettre Madame Louise hors de cause. Le coup terrible qui a brisé l'échine de la dame de Mégère n'a pas été porté par un manchot. Une femme peut-être, mais assurément une femme dans la force de l'âge et certainement exaltée par la haine ou par tout autre sentiment d'une égale violence. Ni l'ancienne religieuse, ni la servante ne sauraient être soupçonnées. L'inconnu, lui, est mort hier au coucher du soleil. Il n'aura survécu qu'un petit nombre d'heures à son crime. L'a-t-il commis en effet? Le spécialiste venu de Grenoble n'a pas achevé l'examen des empreintes recueillies dans la chambre du meurtre, mais se dit déjà en mesure d'affirmer qu'il n'a relevé nulle part celle du mystérieux vagabond. Pis encore, les fiches de l'identité judiciaire semblent ne devoir rien révéler non plus de certains. Étrange vagabond, Son visage, avec celui du curé de Mégère, ne cesse de hanter le juge, et ils sont revenus 20 fois cette nuit dans ses rêves. Obsession d'ailleurs trop naturelle. Le petit juge a vu l'homme mourir, ce visage entrer lentement dans les ténèbres, surgir un moment de leur profondeur, puis glisser de nouveau, s'effacer. Personne que lui n'a prêté beaucoup d'attention à une agonie en somme si douce, si tranquille, une véritable agonie de cheminot qui passe d'un somme à l'autre, épuisé, au revers d'un talus, par une aube froide et limpide d'hiver, éclatante, impitoyable. Le sordide ameublement de la salle de mairie où on l'avait déposé, avec ses banquettes de velours grenat tout crevées, perdant leur crin végétal par maintes blessures, faisait un décor inattendu, dérisoire. Sacrée lumière électrique sur cette face jeune et déjà usée. La pluie battait aux vitres, le crépuscule tombait du ciel comme une cendre, les rares devantures s'allumaient une à une. Les misérables ne meurent d'habitude qu'au petit jour. Oui, certes, l'étrange vagabond. En prévision du transport à l'hôpital, on l'avait affublé d'une chemise de grosse toile, fermée dans le dos par une ganse. Les mains qu'il tenait croisées sur son ventre gardaient, bien que grossières, quelque chose de l'enfance, on ne sait quelle gaucherie, quelle candeur. Le petit juge se vante volontiers de déchiffrer une main comme un visage. Ce n'étaient pas des mains d'assassin. Les traits aussi gardaient leur secret, l'auront gardé jusqu'à la fin. Ceux d'un paysan, c'est sûr, non pas d'un vagabond des faubourgs, d'un batteur de pavés. Impossible d'examiner les yeux, car on avait beau tirer de force en haut les paupières, ils ne donnaient aucun regard. Mais la bouche aussi semblait honnête. Drôle de bouche. Les lèvres s'ouvraient et se fermaient sans cesse. En collant l'oreille tout auprès, on y surprenait une sorte de murmure très doux, tranquille, monotone, comme si elle continuait de réciter une leçon dès longtemps apprise, familière. Difficile d'appeler ça un râle. Pauvres lèvres, il est vrai qu'elles n'ont cessé de se couvrir d'une écume mêlée de terre, car en dépit des efforts du docteur, de l'agilité professionnelle de ses doigts, la gorge n'a pu être dégagée tout à fait de la boue qui l'obstruait. Encore une chose bien singulière, comment se blesser, trouvé couché sur le dos, et sans doute à la place même où l'avait atteint le coup mortel, a-t-il pu avaler tant de terre? L'examen des vêtements lui aussi fait réfléchir. Les vagabonds se couvrent comme ils peuvent, soit, mais ils se couvrent. En novembre, il est rare d'en rencontrer vêtus d'un pantalon, d'une chemise, d'un gilet de laine et les pieds nus dans des chaussettes de coton. Évidemment, le procureur, qui a des explications pour tout, suggère que l'assassin, mis au courant par hasard des habitudes de la dame de Mégère, a pu entrer en passant, sitôt le départ de Madame Louise et de la servante, qui, chaque soir, à 5 heures, vont faire leurs emplettes au village et ne reviennent qu'à la nuit close. Une fois dans la place, possible qu'il ait quitté une partie de ses vêtements, ses chaussures. Sans doute ignorait-il que la dame de Mégère fût sourde. Les chaussures d'un vagabond, même dépourvues de leurs semelles, ne sont pas faites pour traîner sur les dalles cirées, lisses comme la glace. Sans doute, sans doute. Mais pourquoi n'a-t-on retrouvé trace nulle part de la veste ni des chaussures? Pas même une simple casquette. Il faudrait faire curer le puits. 40 mètres de profondeur et probablement 5 ou 6 pieds d'argile. Un joli travail. L'ancienne religieuse n'a pas commis le crime, soit. L'a-t-elle inspiré? Dans quel but? Un ancien testament de la dame de Mégère assurait à sa gouvernante une pension de 10 000 francs par an. De nouvelles dispositions portent cette somme à 15 000, au cas où, la sollicitude de ma fidèle garde-malade me permettrait d'atteindre l'âge de mon père, c'est-à-dire ma 87e année. Ce codicille n'était pas inconnu de Madame Louise, et sa maîtresse, par une coïncidence funèbre, venait de fêter son 85e anniversaire, la veille même du crime. Comment croire que la gouvernante, d'ailleurs jusque-là irréprochable, eût couru un tel risque pour le seul avantage de perdre le bénéfice d'une mesure avantageuse? En somme, une seule personne au monde doit tirer profit du meurtre, l'héritière. Sur celle-ci, l'enquête n'a encore fourni que des renseignements un peu contradictoires, mais généralement favorable ou même excellent. Mademoiselle Évangeline Souricet, petite nièce de la victime, habite Châteauroux. Son père, ancien officier d'artillerie coloniale, veuf depuis 1906, c'était, l'heure de la retraite sonnée, fixé dans cette ville funèbre où il avait mené 12 ans une vie exemplaire. Il passait pour le meilleur paroissien de l'église Saint-Expédie, où son zèle dévot l'avait élevé au rang de marguillier. Membre, puis président de la conférence Saint-Vincent de Paul, auxiliaire bénévole du curé, commensal du vieil archevêque de Bourges, il avait trouvé dans sa fille une collaboratrice passionnée. Devenue orpheline, elle parut, contre toute attente et pour la déception du diocèse, se désintéresser peu à peu des œuvres, vécut dans sa petite maison de la rue des Grainetiers une vie dont la discrète austérité fit l'édification de toute la ville. Bien qu'elle consentît encore à recevoir ou à rendre quelques visites, on ne la vit plus guère qu'aux offices de la chapelle des Dames de la Repentance, voisine de sa demeure. Une amie était venue d'ailleurs partager sa solitude et ses dévotions. Celle-ci passait pour sa nièce, bien que d'âge sensiblement égal. De cette étrangère, Châteauroux s'était résigné à ne rien savoir, les deux femmes ayant décidé très vite de renvoyer l'unique servante et vaquant désormais elle-même aux soins du ménage. On remarquait néanmoins qu'elles montraient généralement l'une envers l'autre, malgré leur intimité fraternelle, une réserve presque excessive. Quelques jeunes gens, plus persévérants ou plus naïfs que leurs camarades, suivaient, seuls encore du regard, à travers les tristes rues de la ville, la mince silhouette de Mademoiselle Évangeline, drapée de noir, ou tâchait de surprendre, sous l'épaisse voilette toujours baissée, un visage que peu d'entre eux pouvaient se vanter d'avoir vu en pleine lumière, mais qu'on disait charmant. Jamais la dame de Mégère n'avait accepté de recevoir sa petite nièce. Elle ne pardonnait pas, disait-elle au père, d'être devenue si tard une espèce de jésuite, ayant d'ailleurs été toute sa vie, et en dépit de l'uniforme, un Nicodème. Car la vieille châtelaine affectait volontiers des convictions voltairiennes, bien qu'elle continuât d'entretenir avec les curés du voisinage des relations qui ne semblaient pas seulement de pure courtoisie. Ne devait-on pas chercher une raison plus profonde, plus secrète à un désaccord qui avait duré tant d'années? Le petit juge croyait voir encore devant lui le singulier visage de la morte, le creux de sa bouche mince, son indéfinissable sourire. Que savait-on, après tout, de l'octogénaire terminant au fond d'un village obscur une carrière sans doute aventureuse et dont le regard, aujourd'hui éteint, s'était posé sur des horizons inconnus, là-bas, de l'autre côté de la terre? Pour quel motif n'avait-elle pas simplement déshérité une parente en somme assez lointaine, fille d'un homme qu'elle semblait avoir haï? Le ciel s'était couvert de nouveau, bien que par chaque brèche un moment ouverte au flanc des brumes, le soleil lança un bref rayon oblique qui semblait courir d'une extrémité à l'autre de l'immense paysage, ainsi que l'éclair d'un phare. Alors une pluie rageuse crépitait comme une grêle sur les vitres et s'éloignait avec lui. De ces renseignements qu'il avait obtenus la veille de Châteauroux par téléphone, le juge se sentait incapable de rien tirer. Presque insignifiant en apparence, ils obscurcissaient encore une affaire déjà ténébreuse, lui apportaient il ne savait quoi de trouble, de suspect. Impression subjective, se répétait le magistrat. Mais il s'irritait de ne pouvoir se dégager tout à fait de l'espèce de rumination monotone poursuivie toute la nuit, même en rêve. Quel rêve ! Des hypothèses, dont il n'avait d'ailleurs pas eu peut-être claire conscience, des voix, des visages qui avaient sûrement hanté son sommeil, il n'avait rien retenu. Parfois, il est vrai, un souvenir semblait prêt à surgir, tremblait un moment comme au bord de la mémoire, puis s'enfonçait de nouveau sans avoir pu réussir à fixer en traits distincts, reconnaissables, ces confuses vapeurs. Insoucieux du temps perdu, la tête enfoncée sous les draps, le petit juge s'absorbait dans cette recherche vaine, il y trouvait un étrange plaisir. N'avait-il pas tenu le mot de l'énigme alors que sa raison et sa volonté engourdie laissaient passer sans contrôle les imaginations les plus absurdes? Parmi celles-ci, une seule peut-être, la vraie, l'authentique, et il l'avait laissée fuir, se perdre à jamais. Cette pensée l'éveilla si brusquement qu'il se retrouva tout à coup assis au bord du lit, jambes pendantes et les couvertures jetées en désordre sur le plancher. À défaut du souvenir rebelle, un visage venait de lui apparaître avec une force, une netteté incomparable. C'était celui du curé de Mégère. Il haussa les épaules et commença distraitement sa toilette. Entre tant de personnages médiocres, le prêtre restait le seul dont il put attendre quelque chose. Du moins semblait-il sincère. Un menteur cherche d'abord à donner l'impression qu'il ne laisse rien de lui-même dans l'ombre, qu'il se livre. L'extrême réserve de cet homme si jeune, si sensible, si peu maître en somme de ses nerfs, devait inspirer confiance à un professionnel depuis longtemps fixé sur la valeur de certaines protestations de franchise qui ne rassurent que les imbéciles. Nul doute que le curé de Mégère n'eût son opinion sur l'affaire. Laquelle ? Nul doute encore qu'il garda pour lui le secret de son entretien avec la gouvernante. Quel secret ? Peut-être l'un de ceux qu'un prêtre ne saurait livrer sans forfaiture, qu'il ne livre jamais. Et d'ailleurs, les scrupules d'une religieuse ne sont-ils pas le plus souvent puérils ? À moins que... La rumeur qui montait du magasin, au travers du mince parquet, en même temps que l'agaçant grelottement de la sonnette à chaque entrée d'un nouveau client, s'enfla tout à coup et le magistrat, repoussant son blaireau, prêta l'oreille. Presque aussitôt l'escalier trembla sous un pas qu'il crut reconnaître. Il eut à peine le temps de courir à la porte et s'y trouva nez à nez avec le brigadier qui, s'arrêtant sur le seuil, porta deux doigts à son képi. « Que se passe-t-il, Desbordes ?»«
Le curé !» il se reprit. « Monsieur le curé vient de foutre le camp !»
La voix dut porter jusqu'en bas, et le petit juge reçut en plein visage une haleine un peu forte, barbouillée de genièvre et de tabac.
« Entrez d'abord, idiot !»
Il se sentait ridicule, vêtu seulement d'un pantalon de pyjama que de nombreuses lessives avaient fait d'un bleu pâle, céleste.
« Vous pourriez vous dispenser d'ameuter le village, » continua-t-il, furieux. « Bonne ou mauvaise, cette nouvelle ne regarde que moi.
D'ailleurs, monsieur le curé de Mégère a le droit d'aller et venir comme il lui plaît, je suppose. Il n'est pas sous mandat d'arrêt, que je sache. De plus, je vous prie de garder pour vous vos expressions de corps de garde. On ne parle pas sur ce ton insupérieur, mon ami. » Ce disant, il avait enfilé son veston, ses pantoufles. Le gendarme écoutait, bouche bée. L'absence, probablement momentanée, de ce témoin ne devrait pas vous faire perdre votre sang-froid, conclut-il, radouci. Expliquez-vous. Je ne crois pas outrepasser le mandat de mes fonctions, dit le brigadier sur un ton de reproche, en affirmant à monsieur le juge que les circonstances de ce départ paraissent suspectes.
Pourquoi suspectes ?
Je dois faire remarquer à monsieur le juge que monsieur le curé de Mégère gardait la chambre, se disant malade. Se disant malade, monsieur le curé de Mégère a eu devant moi, hier, une syncope. Il a disparu. Il s'est absenté, sans avoir même prévenu madame Céleste. À quelle heure ? Impossible de le savoir exactement. La servante l'a vu pour la dernière fois dans la soirée, en lui portant de la tisane pour la nuit. Elle l'avait trouvé plutôt mal, si mal qu'elle lui a offert de coucher. Il n'a pas voulu. Ce matin, porte close, personne. Elle a dû entrer par le bûcher. Puis elle est retournée chez elle. Le lit n'était même pas défait. Qui peut savoir si monsieur le curé n'est pas dans le village, à l'église, ou simplement sorti pour un tour de promenade ? Le gendarme eut malgré lui le vague sourire de condescendance dont il accueillait chaque soir le rapport de ses hommes et qu'ils appelaient entre eux, irrespectueusement, le sourire détective. « Monsieur le juge doit comprendre que je ne l'aurais pas dérangé sans motif. Le curé n'est pas dans le village, sûr. De plus, il a emporté une petite valise que madame Céleste avait rangée elle-même au fond d'un placard. Oh, une valise de rien ! Et enfin... » Il s'efforçait de donner à ses traits, par habitude professionnelle, un air d'attention déférente, comme si, soucieux seulement de rapporter exactement les faits, il attendait avec une confiance aveugle les infaillibles déductions de son supérieur. Mais l'impatience et une juste fierté faisaient trembler sa grosse moustache. « Faut d'abord vous dire que madame Céleste, hier soir, la laisser en conversation avec le petit Gaspard, l'enfant de cœur. Aussi l'idée m'est venue, naturellement, d'aller me renseigner auprès de ce jeune homme. Je me suis donc rendue à son domicile, ou plutôt à celui de sa tante, et j'ai eu la surprise d'apprendre que le garçon, sorti la veille passé 8 heures, n'était pas rentré ce matin. Il est parti avec sa bicyclette. En dépit de ses efforts, la curiosité du petit juge se marquait à ce signe qu'il oubliait d'essuyer ses joues où la mousse du savon soulignait chaque ligne d'un trait grisâtre. « Écoutez, mon ami, reprit-il enfin, la chose peut être intéressante. Elle l'est sans doute moins que vous le pensez. Soit dit pour votre gouverne, monsieur le curé a ses raisons de s'absenter. Il devait même quitter Mégère aujourd'hui ou demain, je le savais. Au point où nous en sommes d'ailleurs, je crois inutile, dangereux même, d'échauffer les imaginations. Cela crée du désordre dans les esprits, les languiront leur train, nous nous perdrons en bavardage. Faites-moi donc le plaisir de prendre en descendant, au comptoir des demoiselles Simplici, un nouveau verre de genièvre, le dernier. Vous trouverez bien le moyen de glisser une phrase apaisante, n'importe quoi, je me fie à votre jugement. Quand le gosse sera revenu, nous tirerons la chose au clair. » Il s'habilla rapidement, ouvrit la fenêtre, s'y accouda, pensif. La clientèle matinale désertait peu à peu l'épicerie, et l'une des sœurs, un pan du cotillon passé dans la ceinture, faisait à grands seaux d'eau claire la toilette de la devanture. Au-dessous de lui, la place minuscule, avec ses arbres rabougris, son vieux banc de pierre et les 4 marches du monument aux morts, formait un tableau paisible et si familier que le magistrat croyait le reconnaître, l'associait malgré lui à de vagues souvenirs d'enfance. L'image du curé de Mégère, elle aussi, semblait monter des profondeurs de sa mémoire. L'image tout entière, ou quelques singularités du regard, de la voix, du geste. Impossible d'évoquer la personne même du prêtre sans qu'une ombre s'y ajoutât sur le champ, presque exactement superposable et néanmoins distincte. Trop vague, hélas. Dès la première minute, le petit juge avait souffert de ce malaise bizarre, mais il venait seulement de s'en expliquer la cause. Quelle que fût sa sympathie pour cet homme étrange, une part de son être lui échappait toujours, au point que leur conversation même ne lui laissait qu'une impression confuse, comme si entre les demandes et les réponses, un témoin invisible s'était glissé sans cesse, poursuivant pour lui seul un monologue mystérieux. Aussi ne réussissait-il déjà plus à éprouver aucune surprise, aucun dépit de cette disparition soudaine. La sottise eût été de croire que le curé de Mégère poursuivrait longtemps avec lui une route commune, ou seulement parallèle. Et d'ailleurs, le curé de Mégère suivait-il aucune route, commune ou non ? Il essaya son chapeau devant la glace, le jeta rageusement sur le lit, se coiffa d'un béret basque, sortit. L'air lui parut d'abord exagérément doux, écœurant, puis l'humidité le saisit tout à coup, et avant qu'il eût atteint l'extrémité de la place, il se sentit glacé jusqu'aux moelles.